Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous y sommes, 7h08, bon dimanche avec RMC en ce 6 décembre 2020, très heureux de vous retrouver, jusqu'à 10h, votre auto, 3 heures d'auto en direct avec vos questions au 3216, vous avez l'appli RMC Direct Studio, alors restez connectés avec nous, nous le sommes aussi, et avec Jean-Luc on lit en temps réel toutes vos questions, vos interrogations, vos réflexions, donc n'hésitez pas, vous pouvez insulter Jean-Luc, hein, ça lui fait plaisir.
Mais il n'y a que ça d'ailleurs.
C'est vrai,
il y a que ça, beaucoup d'insultes. Sympa, ouais, beaucoup de lettres d'amour aussi. Enfin,
ah, voilà. Des lettres d'amour.
Ouais. Jean-Luc, je t'aime, rappelle-moi tout de suite. Ta maman.
Un gros bisou à maman Moreau.
Oui, oui.
Au passage, si elle nous écoute. Jean-Luc, 3 heures d'auto, c'est parti. Dans un instant, Alain sera avec nous. Au menu de ces 3 heures, la voiture électrique plébiscitée par ses propriétaires. On détaillera une étude qui va dans ce sens. Notre bon plan sécurité, attention, faux pneus hiver des SUV. Notre minute verte, c'est le groupe coréen Hyundai Kia qui accélère dans le domaine de l'électrique. Alors
ouais,
qu'ils vont très vite.
Ouais, ils n'étaient pas mauvais et là ils vont accélérer parce qu'ils vont présenter plus de 20 modèles 100% électriques d'ici 2025.
20 modèles.
Ouais, avec une nouvelle plateforme qui permettra d'améliorer absolument tout. Et puis je vous parlerai, j'étais un peu dans le secret des dieux sur les batteries, je vais vous dire 2-3 choses qui vont vous intéresser. Alors je sais qu'il y a des gens encore qui vont dire « Oui, mais ça pose un problème, la voiture électrique, arrêtez, vous nous cassez les pieds ». Non, il faut comprendre que la voiture électrique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, c'est un passage obligé. La voiture électrifiée, les moteurs thermiques ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ce qui risque de disparaître, c'est les moteurs qui fonctionneront avec des énergies fossiles.
Voilà.
C'est ça qu'on essaye de juguler, c'est pas le moteur thermique, il va rester encore un petit moment, il fonctionnera. D'ailleurs, cette semaine, Porsche a présenté des moteurs qui tournaient avec des carburants de synthèse. Donc ça aussi, c'est une piste.
Tiens.
Donc demain, il est possible qu'on ait...
Mais est-ce que le carburant de synthèse ne pollue pas?
Lui, il va être fabriqué, alors déjà pas à partir de ressources fossiles, parce que ce qui pose un problème, c'est libérer le carbone qui est dans les énergies fossiles, qui est stocké depuis longtemps.
Ce qui pollue, c'est de retirer en fait pétrole.
Alors, ce qui pollue, alors on parle de pollution, on parle d'émissions de gaz à effet de serre, mais au-delà de ça, un carburant de synthèse va avoir une formulation qui permet moins de pollution dans le moteur. On parle de vraie pollution là.
Okay.
On parle de particules, on parle d'hydrocarburants brûlés, donc un carburant de synthèse va être plus propre naturellement qu'un carburant fossile.
Céline Kastner sera avec nous aussi tout à l'heure, Jean-Luc, pour notre rendez-vous à faire classer.
Exactement, on verra un mauvais partage des responsabilités. Alors là, c'est un accident avec un bus, hein, et puis en gros, le chauffeur du bus a dit c'est pas moi.
Pas moi.
Et l'expert a réussi à démontrer que si.
C'était un peu lui.
C'était un peu lui, quoi, voilà.
Enfin, à 50% lui, non, j'imagine.
Non, c'était 100%.
C'était 100%, hein. Ouais. D'accord. Notre question pas si bête, peut-on conserver une voiture qu'on a trouvée?
Oui. Vous ouvrez le garage, il y a une Ferrari. Alors, deux cas de figure. Attendez, c'est assez rigolo. Vous achetez une maison. Vous achetez la maison avec tout le mobilier dedans. Enfin, tout ce qu'il y a dans la maison. Vous ouvrez le garage. Il y a une Ferrari extrêmement rare dedans.
Si j'achète un jour votre maison et que vous me laissez vos voitures dedans, je serai embêté hein, quand même.
Ah, embêté, non. Hein.
Enfin non, mais embêté, je serais gêné. Quoi.
Oui,
j'aimerais bien vous les rendre quand même.
C'est, oui.
Mais je ne sais pas si je vous les rendrai.
Voilà. Alors, vous trouvez une voiture comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous trouvez une autre voiture. Vous êtes
dans la rue,
la campagne. Il y a une voiture.
La porte est ouverte.
La clé
sur le contact.
Vous trouvez la voiture et vous la prenez.
Qu'est-ce qui se passe?
Exactement.
Vous êtes bête quand même. Et puis, notre rendez-vous sur le vif, on évoquera cette opération RMC BFM TV, la plus belle voiture de l'année 2021.
Ouais, on commence à voter. On va vous expliquer comment et pour quelle voiture surtout on peut voter.
Très bien. Et bien sûr, je le disais, en filigrane tout au long de ces 3 heures, vos questions auto au 3216, l'appli RMC Direct Studio. Si vous nous joignez via Direct Studio et que vous voulez qu'on vous rappelle parce que vous avez une question, n'oubliez pas votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est très important. Jean-Luc, c'est parti et on attaque avec Alain qui nous attend. Bonjour Alain.
Bonjour Alain.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François. D'abord, je vous remercie d'avoir retenu ma question et puis je vous félicite pour votre émission qui est vraiment extraordinaire.
Oh là 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 là, allez-y Alain.
Merci tonton Alain.
Alors, continuez à nous gratouiller.
J'aimerais avoir votre avis. J'ai 4 véhicules, 2 diesel et 2 essence. Et de plus en plus, on voit dans les centres auto des huiles mixtes. Alors, j'ai un peu un doute, j'ai pas de recul. Est-ce que vous connaissez ce genre de type de produit? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de faire, d'utiliser la même huile?
Vous savez quoi? Aujourd'hui, alors, à l'inverse de tout ce que vous êtes en train de me dire, chaque constructeur aujourd'hui a des préconisations qui lui sont presque propres sur les huiles. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a pratiquement une huile faite sur mesure pour chaque modèle. J'exagère un peu, mais on n'en est pas très loin. Hein, quand il y a des nouveaux moteurs qui sortent, en général, les constructeurs réclament des formulations d'huile très spécifiques pour ces moteurs. Soit d'accord. Des huiles très fluides, c'est souvent ça. Hein.
On réclame 30.
Du 0W30. Il y a des huiles très 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 fluides. En plus, entre l'essence et le diesel, la formulation des huiles est pas la même. Les huiles diesel sont plus fortement additivées que les huiles pour les moteurs essence. Et il peut y avoir des composés dans les huiles pour des moteurs essence qui vont abîmer, entre autres, le filtre à particules sur les diesels.
D'accord.
Donc, mon conseil, il est très simple. L'huile qui fait tout, elle fait rien de bien.
D'accord.
Donc, okay. Si vous voulez vraiment avoir la meilleure lubrification, vous regardez les préconisations pour chaque véhicule que vous avez, et même pour les deux essences, si ça se trouve, c'est pas la même huile qu'il faut dans l'un et dans l'autre. Et pour les deux diesels, pareil.
D'accord.
Donc il faut vraiment être très 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 précis, c'est important. Hein. Il y en il y en a plein qui pensent que on va prendre une huile haut de gamme et que qui peut le plus peut le moins. Et ben c'est pas forcément une bonne réflexion. Il faut prendre l'huile adaptée qui est conseillée par le fabricant. Vraiment. Et c'est valable. Alors c'est valable aussi pour les voitures anciennes. Hein. Pour les voitures anciennes, pas une huile moderne dans une voiture ancienne.
D'accord. Et sur les filtres à huile, est-ce qu'il y a des grosses différences de prix? Est-ce que ça vaut le coup d'aller vers les plus chers? Est-ce qu'il y a des grosses différences?
Alors, il peut y avoir des différences en qualité de filtration. En fait, vous avez des filtres à huile. Alors, il y a des marques, je vais en citer une, un KN par exemple, qui fait des filtres à air et des filtres à huile avec à chaque fois des technologies qui sont un petit peu différentes de celles des autres et qui offrent une filtration plus fine. Plus on aura une filtration fine, plus on aura une huile qui restera propre dans le moteur. Donc oui, de toute façon, vu le prix d'un filtre à huile, franchement, en centre auto, ça vaut quoi? Ça vaut entre 6 et 10 euros. Rajouter 4 euros pour avoir une filtration un peu meilleure, c'est pas un budget extraordinaire.
Ça va changer les choses.
Donc plutôt que de prendre le filtre chinois premier prix, vous prenez un filtre d'une marque connue. C'est pas une grosse dépense. Faire des économies sur ça, il y a deux points sur lesquels vraiment les économies sont mal placées. C'est les lubrifiants, faut prendre un lubrifiant de qualité. Et puis les pneumatiques, acheter un pneumatique premier prix, il va s'user plus vite, on est moins en sécurité, il va moins bien tenir la route. Enfin voilà.
Au final, on est perdant.
Non, on n'est pas gagnant. Déjà, si vous changez le pneu deux fois au lieu de celui qui était 50% plus cher qui durera deux fois plus longtemps, le calcul, à moins d'être très bon, très mauvais en mathématiques, on a compris qu'il n'est pas, financièrement pas intéressant.
D'accord. Alors, par contre, si vous avez une minute, j'ai une petite question à vous poser. J'ai un Toyota Land Cruiser 199 chevaux cadet, là.
Ouais.
C'est un modèle rare, c'est un 60e anniversaire.
Ouais.
Et je n'ai que 23 000 km en 8 ans. Alors, je m'en sers régulièrement pour tracter un vent. Avec des chevaux.
Gardez-le.
Ben voilà. Et alors, il est préconisé par Toyota de changer la courroie qu'à 150 000 km. Alors, moi, je suis un peu sceptique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais en général, il y a deux dates. Enfin, il y a deux.
Il n'y a
pas une durée?
Non, il n'y a pas de durée.
Ah, c'est 10 ans en général. S'il a plus de 10 ans, changez la courroie, parce que sinon, vous prenez.
Il
a 8 ans. À 10 ans, vous changez la courroie.
D'accord, ok.
Parce qu'il y a l'usure du kilométrage, mais il y a aussi l'usure du temps. Il y a du caoutchouc, il n'y a pas que ça dans les courroies, mais caoutchouc, c'est une matière vivante pratiquement, et donc les changements de température, on voit bien naturellement, si vous avez des... François joue souvent avec des vieux élastiques, un vieil élastique, s'il a 5-6 ans, il va sécher, vous tirez dessus, paf, ça vous pète dans les doigts.
Faut pas jouer.
Non. Donc ça a une durée de vie limitée.
Et alors pourquoi vous dites qu'il faut qu'il la garde? C'est une bonne voiture?
Ouais, c'est une très bonne voiture, surtout. Il y en aura plus de fabriqués comme ça à l'avenir. Hein.
Non, c'est pas
qu'il n'y en aura plus de fabriqués, c'est que ils vont plus être distribués en Europe.
Et voilà.
Ce genre de véhicule, en Afrique, on en trouvera encore, mais en Europe, ils seront plus commercialisé. D'abord parce que vous aurez, alors pour l'instant c'est 20 000 euros de malus, mais vous aurez à terme 40 000 euros de malus sur un véhicule comme ça. Qui va acheter ça ?
Faut dire que quand on est derrière Alain un feu rouge, vaut mieux pas respirer quoi. C'est ça,
non. Alors c'est là que vous vous trompez.
Non mais je pose une question.
En fait sur les diesels. Il y a un vrai problème. On reviendra pas dessus parce que je crois que la page du diesel est tournée, mais finalement, un vieux diesel qui émet une fumée bien noire à l'échappement, quelque part, il va être moins nocif qu'un diesel récent.
Ah, c'est bien étouffant quand même quand vous êtes à l'arrière et que vous avez.
Je suis pas en train de dire, Jean-Luc. Je suis pas en train de dire que ça pollue pas. Je suis en train de dire que ces grosses particules, finalement, notre corps arrive plus facilement à s'en débarrasser que des particules ultra fines qui vont rester coincées au fin fond des poumons. Ça, c'est un vrai problème. Voilà. Alors donc,
pour pacter, il y a que ça.
Oui, en plus.
Un électrique.
Et surtout, c'est increvable, votre moteur là.
Oui, c'est sûr.
Si vous avez fait 25 000 km en 8 ans, vous allez pouvoir le garder une cinquantaine d'années encore.
bon dimanche, Alain.
Merci à vous.
À bientôt. Dimanche. Au revoir.
Au revoir, Alain.
Et si tout comme Alain, vous voulez joindre Jean-Luc Moreau, 3216, l'appli RMC, Direct Studio.
Il y a des vieux modèles Toyota comme ça, en particulier des HDJ 80 ou HDJ 100, qui valent aujourd'hui en occasion, même avec beaucoup de kilomètres, plus cher que neuf à l'époque, parce qu'on n'en trouve pas.
C'est sûr.
Et ceux qui veulent partir à l'aventure, bon en ce moment c'est pas trop facile de partir à l'aventure, mais ceux qui veulent partir à l'aventure, alors en Afrique ou ailleurs, c'est vraiment les véhicules,
c'est
le véhicule idéal. C'est costaud, ça mange n'importe quoi comme carburant, parce qu'il y a ça aussi. Un vieux diesel, vous lui mettiez presque de l'huile de vidange, et il tournait.
Ouais.
Diesel moderne, il va faire 200 mètres.
Et paf. Tiens, un petit message qui n'est pas très sympa pour vous. C'est Claude Guillaume qui nous dit « Monsieur Moreau, vous allez encore faire l'apologie des bagnoles électriques aujourd'hui. C'est bien pour les Parisiens et les bobos. Essayez de penser aux autres qui résident en province. » Merci au moins d'essayer.
Oui, non, mais attendez, on ne parle pas que de voitures électriques dans cette émission. Il faut arrêter de dire que c'est un truc voiture électrique.
La preuve.
Mais en plus, je viens de lui dire que c'était bien.
C'était un bon diesel avec de la grosse fumée noire.
Oui. Non, mais un diesel bien utilisé, un diesel récent bien utilisé, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faut bien l'utiliser.
Non, mais la chose importante aussi, c'est que cette émission auto a toujours eu un coup d'avance. Et
tout le temps. On se rend compte quand on regarde derrière que c'était toujours le coup dans le bon sens.
C'est sûr. Donc c'est peut-être en étant rétrograde qu'on dit que l'électrique n'est valable que pour les Parisiens. Parce qu'aujourd'hui, l'électrique n'est pas valable que pour les Parisiens. On le répète.
À la limite, ça a même plus de sens.
Ça a plus de sens quand on est en campagne.
Exactement. Quand on est en maison individuelle que quand on est Parisien.
Jean-Luc, il est temps de retrouver maintenant notre bon plan sécurité.
RMC, votre auto.
Hey, Daniel, explique-moi, c'est quoi le plan là ?
Le bon plan sécurité.
Et ce plan génial, messieurs, essayez.
Jean-Luc Moreau.
Alors Jean-Luc, les SUV, on le sait, sont à la mode, mais de nombreux propriétaires de ces 4x4, qui n'en sont pas toujours d'ailleurs...
Il y a beaucoup de SUV qui ont deux roues motrices.
Hein. Évidemment. Ils se sentent à tort en sécurité l'hiver venu.
Alors effectivement, d'abord, on vient de le dire, beaucoup de ces véhicules ne disposent pas d'un système de traction intégrale. Leur adhérence n'est donc pas meilleure sur la neige que les voitures classiques. J'ajouterais même un compte tenu du poids plus important que dans les descentes. Les conducteurs sont moins en sécurité que dans une berline, parce que vous avez du poids, donc vous avez plus d'énergie, et dans la descente, tout le monde est égalité, donc là, vous serez moins en sécurité. Alors surtout, certains utilisateurs sont trompés par les indications de leur pneumatique, qui affichent M plus S sur le fenant.
Oui.
C'est quoi M plus S ? C'est mud plus snow, soit boue et neige en français, donc ils pensent à tort que ces enveloppes offrent un surcroît d'adhérence sur la neige.
C'est faux ?
Oui. Il s'agit en fait de pneus mixtes qui sont... Alors, ils sont très différents du pneu hiver. Ils peuvent, c'est vrai, présenter une bande de roulement avec des crampons plus marqués. Ça sera légèrement plus efficace sur un terrain meuble ou dans la neige. Mais en tout cas, c'est pas au niveau d'un vrai pneu hiver.
Alors Jean-Luc, qu'est-ce qu'il faut faire pour circuler en sécurité l'hiver avec un SUV ?
Faut adopter de vrais pneus hiver avec une gomme spécifique qui augmente l'adhérence à des températures en dessous de 7 degrés. Je pense que le message est bien passé maintenant. Ils possèdent également une bande de roulement qui est reconnaissable à leurs petites lamelles qui vont s'accrocher dans la neige, des petites lamelles comme ça. Aujourd'hui, presque tous les manufacturiers proposent de telles pneumatiques et ils peuvent équiper la majorité des 4x4 et des SUV, même les très très puissants, comme vous avez un Porsche Cayenne Turbo, j'ai vu François,
oui, c'est vrai.
Et même ça, on peut l'équiper.
Il n'y a pas un marquage spécifique ?
Alors, si on parle de 3PMSF, vous allez me dire c'est quoi ça ? En anglais, c'est Three Peak Mountain Snowflake. Alors, si on traduit, ça donne montagne, trois pics avec flocons de neige. En fait, c'est un petit dessin qui est sur le flanc du pneu. Hein, oui. Donc, c'est, on comprend, une montagne avec trois pics et un flocon de neige dessiné. Ça garantit que ce pneu répond à la norme spécifique qui offre un niveau de performance optimal en hiver. Je conseille d'ailleurs aux propriétaires des SUV d'être très vigilants en changeant leur pneumatique. En effet, si les pneus M plus S évoqués plus haut sont aujourd'hui considérés par la réglementation comme des pneus hiver, ce qui est un peu bizarre, ce sera plus le cas, en revanche, à partir du 1er novembre 2024. Donc, si on veut des vrais pneus hiver, il faut absolument prendre des 3 PMSF, faute de quoi on ne pourra plus les utiliser dans 3 ans.
Et on sera en plus, en meilleure sécurité, c'est ça?
Bien sûr, il y a la sécurité, et puis vous savez qu'il y a la loi va être modifiée, on ne pourra plus rouler dans certaines régions si on n'a pas de pneus hiver en hiver.
Jean-Luc, avec de tels pneus, on peut se passer de chaîne?
Alors, associer un système de transmission intégrale permanente, hein, il y a certains SUV qui en ont, c'est vrai qu'ils permettent de passer pratiquement partout, donc on peut se passer de chaîne, sauf dans des cas extrêmes, genre la route n'a pas été dégagée, vous avez 50 cm de neige fraîche.
Là, il n'y a que les chaînes qui sont efficaces.
Il faut conserver des chaînes quand même.
D'accord. Voilà pour ces pneus SUV. Il est 7h24, Jean-Luc, on revient dans un instant. Et on va poursuivre après la météo. On repart avec vos questions. Lionel sera là. Il va nous parler justement de véhicules électriques et de véhicules électriques chinois. Visiblement, il a une petite réflexion à nous faire sur ce sujet. 32-16, l'appli RMC, Direct Studio, c'est votre tour. On est là jusqu'à 10h, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre tour.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Nous sommes de retour, il est pile 7h30. Merci d'être là et bienvenue. Si vous venez d'arriver sur AMC, un bon dimanche avec Jean-Luc Moreau, eh bien c'est votre auto jusqu'à 10h. Jean-Luc répond à vos questions au 32-16. Dans quelques instants, on évoquera la stratégie du groupe coréen Hyundai Kia qui va accélérer dans le domaine de l'électrique. Mais auparavant, vos questions, vos points de vue sur le monde de l'automobile, vous le savez, ça se passe au 32-16. Et on accueille Lionel qui est là. Bonjour Lionel.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Lionel. Lionel Delaunay.
Oui.
Le Lionel Delaunay que je connais.
Alors ça, normalement, on n'a pas le droit de le dire à l'antenne parce que je voulais quand même faire passer des milliers de câlins virtuels à quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis de nombreuses années.
Parce que François, je suis allé à l'école.
C'est vrai?
Ouais, c'est une info que je vous donne qui est exclusive. Et Lionel était à l'école avec moi. Et on a fait les pires bêtises ensemble. Alors je sais que ma mère écoute, donc je ne vais pas trop en
raconter. Vous copiez sur lui, non, en plus, j'imagine.
Ah non, mais on avait la même petite moto quand on était jeune et on a fait quelques conneries ensemble.
D'accord. Voilà. Et vous avez Lionel, ça faisait longtemps que vous n'aviez plus de nouvelles de Jean-Luc?
Alors non, j'ai eu des. Alors je suis resté de nombreuses années sans nouvelles de Jean-Luc parce que mon métier m'a amené à voyager.
Ouais, lui, il avait un vrai métier, voilà.
Non, nous avons fait la même formation au départ, si ce n'est que toi, tu as choisi de partir vers le journalisme après, mais nous avons une formation technique de bon niveau tous les deux. Et moi, j'ai choisi d'aider les constructeurs automobiles à construire des usines un peu partout dans le monde. Donc, ça va, c'est plus de 14 ans à l'étranger, un peu dans tous les pays, à construire des usines automobiles. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle ce matin.
D'accord. Voilà. Bon. Et alors,
au-delà une réflexion qui est intéressante.
Oui, parce qu'au-delà de ces retrouvailles qui sont presque émouvantes entre vous deux,
je suis ravi. Mais Monsieur Sorel, je vous envoie aussi des milliers de câlins virtuels. Il n'y a aucun problème.
Franchement, Lionel, ça fait plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et alors, au-delà de ça, je crois que vous aviez une petite réflexion que vous vouliez mettre en avant ce matin.
Oui, alors elle est toute simple. Aujourd'hui, c'est vrai que Jean-Luc a pas mal anticipé sur tout ce qui était électrique depuis 20 ans, ça fait longtemps, et il est vrai que l'électrique, dans l'absolu, c'est plutôt pas mal. La problématique de fond, c'est que malheureusement, nos politiques font, comme d'habitude, malheureusement tout à l'envers, c'est-à-dire un lobby qui est devenu, on est passé du diesel à l'électrique, les filières ne sont pas prêtes, et aujourd'hui, ce qui nous arrive globalement, c'est que l'électrique, si on le prend en tant que tel, les voitures sont fabriquées en Chine, les batteries sont fabriquées en Chine, les moteurs sont fabriqués en Chine, et globalement, puisqu'on fabrique tout en Chine, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de construire la voiture directement en Chine? Ce qui va se passer pour d'ailleurs la Smart, qui va passer full électrique, et l'usine, je crois que l'usine va même fermer en Assam.
Mais ça y est, l'usine que j'avais, alors l'usine, tiens, puisqu'on fait du feedback ce matin, enfin du rétro, l'usine que j'ai inaugurée. c'est moi qui ai présenté l'inauguration avec à l'époque trois chefs d'État.
Tout ça parce qu'il y avait une montée de champagne.
Non, c'était en Mondiovision et il y avait trois chefs d'État. Il y avait Helmut Kohl, Jacques Chirac et le président suisse qui inaugurait l'usine, puisque vous savez que Smart c'était Swatch au départ et c'est devenu Smart après quand Daimler a repris la marque. Oui. Et donc j'étais face à un public en Mondiovision, parce que je connais quelques mots d'allemand. D'ailleurs, Lionel parle un peu mieux allemand que moi, mais bon, ça va, je connais encore quelques mots d'allemand. Donc, on avait fait cette inauguration. Et l'usine Smart, effectivement, vient de fermer. Elle était à Hambach, en France, et l'usine Smart a fermé. Alors, c'est vrai, Lionel, aujourd'hui, on délocalise cette production sur la Chine, mais ce qui était intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu... Alors, je vais te tutoyer, toi. D'habitude, je vous vois les auditeurs, mais là, je suis obligé de te tutoyer. C'est que j'ai des infos... Allez, on va dire un peu exclusive que je vais pouvoir vous donner sur le retard des Français en matière de véhicules.
La France rachète la Chine, c'est ça l'info ?
C'est pas la France rachète la Chine, mais vous savez, en France, on a des chercheurs qui sont très avancés, sans doute plus que les chercheurs chinois en matière de moteurs électriques et de batteries. Alors vous allez me dire, mais pourquoi aujourd'hui on n'en produit pas ? Parce qu'on a loupé le train, c'est vrai qu'on était partis, les constructeurs étaient partis dans le tout diesel. Ils n'ont pas cru du tout à l'électrique, alors qu'on avait l'opportunité de prendre de l'avance dans ce domaine. On a donc du retard, mais on va pouvoir, non pas rattraper le train, parce qu'on ne peut jamais rattraper le train, mais on va en prendre un plus rapide. Ce qui, à terme, fera qu'on va doubler le train en question. Je m'explique.
Sincèrement, vous pensez qu'on peut doubler la Chine ?
Oui, je vous explique comment.
Je suis un peu dubitatif, et pourtant je bois vos paroles tout le temps.
On a un groupe français qui s'appelle Total, qui est un peu puissant dans le monde, qui a décidé de prendre le virage, lui aussi, de l'électrification. Ils ont racheté une marque française de batterie qui s'appelle Saft, qui était très avancée technologiquement. Saft, ils font historiquement les batteries pour tout ce qui est spatial, pour tout ce qui est militaire. Donc, ils font de la top batterie. On a des start-up françaises qui viennent de faire des innovations. On a parlé de Nawa Technologies il n'y a pas longtemps, qui a mis au point des électrodes en nanotubes de carbone. Et le patron de Nawa Technologies m'a dit qu'il travaillait avec Saft et que la prochaine génération de batteries, qui sera donc française, aura des performances très supérieures à ce que les Chinois font. Et chez les constructeurs auto, on est déjà dans la conception de l'intégration de ces batteries sur les modèles. Oui. Donc, on est en retard, on est en train à marche forcée, de non pas rattraper ce retard, mais prendre un coup d'avance.
D'accord.
Donc, aujourd'hui, c'est vrai, Lionel, à l'étape où on est, les Chinois ont la main sur le marché d'abord, parce que c'est eux, et ça pose problème, qui exploitent les matériaux qui servent à fabriquer les batteries. On sait qu'il y a un problème environnemental à ce niveau-là. Demain, on pourra faire des batteries avec donc des nanotubes de carbone pour les électrodes. Il y aura toujours besoin de lithium, mais beaucoup moins que dans les batteries actuelles. Donc, le problème des matériaux un peu limite, genre le cobalt et tout ça, ça sera réglé. Et on va pouvoir reprendre la main sur les Chinois. Pareil sur les moteurs électriques. Un moteur électrique, on a l'impression aujourd'hui que tout est figé, ça progresse beaucoup. Le rendement des moteurs électriques est en train de progresser également. On va avoir besoin de moins de matériaux qui posent problème également dans les moteurs électriques. Donc on est dans une vraie révolution. On est en train de réinventer l'automobile. Donc, on va passer d'une position aujourd'hui où on est dépendant de la Chine, peut-être demain, à une position où on aura un coup d'avance. Oui. Je l'espère, franchement.
Espérons-le.
Je l'espère.
Parce que rappelons cette interview très intéressante qu'on avait réalisée de Nawa Technologies. C'est une vraie révolution.
C'est une révolution.
On va passer.
Lionel.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille sur... je suis chef d'entreprise, je travaille dans un domaine qui est un peu particulier, c'est-à-dire c'est l'agrégation des données et l'intelligence artificielle pour... et aider au mieux, justement, à mieux comprendre ce qui se passe dans la post-production. Oui. Et aujourd'hui, le plan de relance économique qui est mis en place par le gouvernement, qui pèse quelques milliards quand même, va impacter fortement Trémery, l'usine de Trémery, qui quand même passe du modèle moteur thermique au modèle moteur électrique, l'usine du groupe PSA.
Oui, qui était déjà passé avant du moteur diesel, qui faisait que des diesels, pratiquement Trémery, et qui était passé ensuite au moteur essence, et qui maintenant va évoluer vers le moteur électrique.
Et ça me fait plaisir, Jean-Luc, je vais dire tu, hein, du coup.
Oui.
Ça me fait plaisir que tu puisses dire ça, parce que je pense que c'est important que tout le monde comprenne bien que y a l'avant. L'avant, c'est la Chine. Il y a l'après. On a un rôle à jouer parce qu'on a quand même des ingénieurs assez.
On a les meilleurs chercheurs. On a les meilleurs chercheurs du monde en matière de batterie. Donc, ça serait dommage qu'on n'en fasse rien.
Et après, c'est vrai que l'électrique, il y a une chose que j'entends régulièrement. Malheureusement, on est aussi plombé par ces cycles, les fameux cycles WLTP pour les économies, etc. Moi, ce que je trouve sidérant, c'est qu'entre la vraie vie d'une voiture aujourd'hui et l'homologation qui donne le bonus ou le malus, il y a des écarts importants. Parce que malgré tout, il y a des voitures qui roulent avec des 6 cylindres à plat, je nommerai pas la marque.
Mais on en a parlé tout à l'heure.
Mais qu'on peut utiliser au quotidien. Sur les voitures à injection directe qui ont 5 à 6 ans, la consommation moyenne en roulant entre 130 et 110 km/h, c'est 6,9
litres.
Oui. Pour des voitures qui font 340 chevaux, alors qu'elles sont, taxées d'un bonus, d'un malus maintenant de 20 000 euros ou 30 000 euros. Ce qui est aberrant, parce que dans la vraie vie, ça ne consomme pas beaucoup, parce que la gestion électronique est quand même très, très bonne. Voilà, c'était pas un coup de gueule. Hein,
non, c'était une réflexion intéressante.
C'était très bien, parce que ça nous permet justement de mettre un coup de projecteur sur ce qui va se passer demain.
Évidemment. Merci Lionel.
Merci Lionel.
Merci à tous. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Puis continuez cette émission qui est super sympa. Parce que moi, je suis un lève-tôt. Je suis debout à 6h30 tous les matins. Et je suis content le dimanche. Je suis au calme et je vous écoute. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà, merci à tous.
À bientôt, Lionel. Merci.
Au revoir.
Il est 8h20. Si tous vos potes vous appellent maintenant au 32-16, on n'est pas couché, hein, Jean-Luc.
Mais ça prouve que j'ai des potes, c'est déjà ça.
Oui, c'est sûr. Si après vos fiancés vous appellent au 32-16, ça ira beaucoup plus vite, visiblement. Allez, 8h20, on plaisante, bien sûr. 8h20, dans un instant, ce sera la minute verte. Et on va parler, on évoquait les Chinois et les Français. Si on s'intéressait aux Coréens, parce qu'ils rigolent pas, hein, eux non plus. Et le duo.
Vous savez quoi, on va encore faire un feedback. Je vais vous parler d'une entrevue que j'ai eue il y a quelques années avec un des patrons du groupe Hyundai.
D'accord.
Et ce qu'il me disait, est en train de se produire aujourd'hui.
Allez,
et à l'époque, quand je l'ai écrit, on m'a dit, ouais, mais t'es cintré, toi.
Hyundai, Kia, la stratégie électrique, c'est dans un instant, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau.
8h moins le quart, avant de retrouver la météo, les infos de 8h, Jérôme sera là dans un instant. Il va nous parler de sa Renault Mégane. Ce sera notre premier infirmier libéral de ce dimanche, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Et bien avant tout cela, notre minute verte maintenant.
RMC, votre auto.
La minute verte.
Et on va parler de la stratégie d'un Coréen, enfin d'un groupe coréen. C'est Hyundai Kia qui va accélérer dans l'électrique, Jean-Luc.
Ouais, on va faire un petit flashback encore, on va remonter. C'est en 2009, j'avais rencontré Monsieur Yang, qui était président et directeur général du groupe Hyundai.
2009, donc il y a 11 ans.
2009, il y a 11 ans. Et à l'époque, j'avais posé la question. J'ai dit, c'est marrant, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de voiture hybride? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de voiture électrique? Et il m'avait répondu, il m'avait dit, les Coréens sont beaucoup plus réactifs que les Européens, les Américains et même les Japonais. Et si on se rend compte que le marché de l'électrique a un avenir, on se développera beaucoup plus vite, on vous proposera bien plus vite que les autres des produits meilleurs et plus nombreux. Et à l'époque, quand j'avais écrit ça, on m'avait dit, bon, d'accord, ok, mais il y a des fils qui se touchent, le garçon.
2009, rappelons-le, on était en plein diesel.
On était dans la folie du diesel.
On
a eu un pic en 2013 où on était à 70% de vente de diesel.
C'est ça.
Quand on parlait même de voitures hybrides, ça semblait totalement incongru. Il y avait Toyota qui faisait des hybrides, Honda en faisait quelques-uns.
Les véhicules électriques, ça n'existait pas. Ou alors, il y avait quelques modèles comme ça.
Ouais, il y avait quelques modèles un peu exotiques. Il y avait eu une première génération de véhicules électriques dans les années 90. Et en fait, la technologie des batteries faisait que c'était sans avenir. Parce qu'on avait des autonomies limitées, et puis surtout, on avait, vous savez, le fameux effet mémoire. Quand on ne déchargeait pas complètement la batterie et on la rechargeait après, on perdait à chaque fois de la capacité. C'était des batteries cadmium-nickel, en plus très polluants. Enfin, bon, voilà. Donc, on se disait, il n'y a pas d'avenir sur ça. Et les Coréens disaient, s'il y en a, on sera là. Et donc, 11 ans plus tard, ils nous prouvent. Alors, eux, tout le monde dit aujourd'hui, tous les constructeurs disent, on veut être les leaders demain sur l'électrique. Volkswagen, Renault, enfin tout le monde nous dit on va être. Sauf que eux, ils mettent vraiment les moyens. Ils vont lancer une nouvelle plateforme qui s'appelle EGPM.
Oui.
Cette plateforme équipera 20 modèles 100% électriques d'ici 2025. Vous voyez ? D'ici 2025, 20 modèles 100% électriques. Alors, ils offriront ces modèles à partir de 500 km d'autonomie, en norme WLTP, donc la nouvelle norme d'homologation. D'accord. Ils pourront être rechargés à 80% en 18 minutes sur une borne de recharge ultra rapide. Ils vont disposer d'une nouvelle technologie qui permettra de passer de 400 volts à 800 volts, donc d'avoir de la charge ultra rapide jusqu'à 350 kW. Hein, c'est ce que propose aujourd'hui Porsche. Porsche qui est un peu... Oui, évidemment, qui propose sur un produit qui dépasse largement 150 000 euros.
Mais c'est le top du top en matière de technologie électrique.
Voilà, ça permettra donc d'avoir vraiment de la charge très rapide. Vous pourrez.
Encore faut-il qu'il y ait des bornes, mais ça, c'est un autre débat.
Exactement. Vous pourrez récupérer, parce que là, je vous ai dit 80% en 18 minutes, mais vous récupérerez 100 km d'autonomie en seulement 5 minutes sur ces bornes-là.
Wow.
Voilà. Donc la technologie, elle est prête. Ça sera des batteries. En fait, les batteries sont dans le sous-bassement de la voiture avec un système de refroidissement liquide très performant. Donc, ce qui permettra de faire de la charge très rapide, même lorsque la voiture. Parce qu'aujourd'hui, le problème sur une Zoé, par exemple, si vous voulez faire de la charge rapide alors que vous venez de faire de l'autoroute, la batterie est très chaude.
Ça marche.
Comme elle est à refroidissement par air, vous n'allez pas prendre. Ouais. Une puissance de
45, va dégrader la vitesse de recharge.
Vous aurez 25 kW de D'accord. puissance de charge et non pas 45 kW comme la voiture est capable de le prendre. C'est à peu près la même chose sur tous les véhicules. Donc ils vont travailler sur ça. La technologie du batterie va aussi évoluer. Bon, on sait que les Coréens en matière de batterie, c'est pareil. On parle beaucoup des Chinois, mais les Coréens ont, aujourd'hui dans votre téléphone portable, il y a quand même toutes les chances que vous ayez une batterie coréenne. LG aujourd'hui et Samsung
sont les leaders
en la matière. Donc évidemment, ils continuent à travailler. Alors ils vont proposer l'avantage de cette nouvelle plateforme, c'est que vous pourrez mettre dessus un peu comme on va revenir aux fondamentaux de l'automobile. Au début du XXe siècle, les constructeurs proposaient des châssis motorisés, c'est-à-dire vous achetiez un châssis avec le moteur, la transmission tout dessus, et des carrossiers, vous faisiez la carrosserie qu'on adaptait, donc on pouvait avoir la même voiture avec des carrosseries différentes. Bon là, c'est pas tout à fait pareil, mais vous avez cette plateforme motorisée qui pourra être, alors à l'origine en propulsion avec le moteur à l'arrière ou en quatre roues motrices avec un deuxième moteur à l'avant, et dessus vous mettrez bon une carrosserie de SUV, une carrosserie de coupé, de cabriolet, ce qu'on veut en fait.
C'est modulable.
Exactement, ça sera modulable, ça permettra de proposer tout un tas de véhicules, y compris des véhicules à vocation sportive, puisqu'ils nous annoncent quand même que la motorisation la plus puissante permettra de passer de 0 à 100 km/h en 3 secondes 5. Aujourd'hui, il faut une Ferrari qui pédale parmi les modèles les plus puissants pour arriver à ça, avec 260 km/h en pointe. On est dans des performances de Tesla.
Tesla qui fait mieux, non ?
Oui, Tesla fait mieux, ouais. mais là,
on, ça coûtera peut-être moins cher en plus.
Exactement, là on est quand même dans une offre de véhicules grand public. Hein.
D'accord.
Il y aura aussi une autre innovation.
On n'a pas de tarif, hein, encore.
Non, on n'a pas de tarif. Pour l'instant, on n'a pas de tarif. Il y a une autre innovation majeure, c'est que la voiture pourra, alors évidemment, charger de l'énergie, mais restituer de l'énergie au réseau aussi. Et ça, l'avenir est là. Pourquoi ? Parce que on comprend bien que si on a beaucoup de voitures électriques, la production électrique, à un moment, au pic de consommation, va s'écrouler. On risque d'avoir des coupures de courant. Donc les véhicules électriques pourront fournir de l'énergie au réseau et ces voitures-là pourront même fournir de l'énergie pour faire tourner votre lave-vaisselle, etc. Elles fourniront du 110 ou du 220 volts. Donc on pourra se brancher, c'est-à-dire en heure creuse charger sa voiture et se servir de sa voiture même pour faire fonctionner sa maison le reste du temps.
Et encore une fois, Tesla, qui est visionnaire, a envisagé ce type de solution. Hein.
Oui, du smart to grid. Mais les Japonais, il y a déjà 10 ans qu'ils nous... Vous savez qu'au Japon, ça fonctionne. Hein.
Jérôme est avec nous au 32-16. Jean-Luc, on change de sujet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Jérôme de Marguerite, dans le Gard.
C'est ça.
On vous écoute.
Et un des fameux infirmiers libéraux qui vous appelle régulièrement.
Mais j'ai pris mes gouttes, hein, Jérôme. C'est pas la peine d'appeler. Hein.
Ah bon, ça va alors. Bon, comme je vous écoute assez fréquemment, j'ai fait le choix d'acheter il y a quelque temps une Renault Mégane 1 litre 3 140 chevaux TCE avec un FAP. Et ma question, c'est quelle est la conséquence, enfin, quelle est la possibilité pour mettre de l'éthanol dessus, parce que j'ai vu sur plusieurs sites que c'était pas possible à cause du FAP.
Alors, c'est pas possible à cause du FAP. Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, on a des gens qui font la réglementation en France qui sont un petit peu frileux. Alors, c'est vrai que vous ne pouvez pas mettre un boîtier homologué à cause du filtre à particules. C'est en discussion en ce moment. Il faut que les constructeurs arrivent à prouver, enfin les constructeurs de boîtiers arrivent à prouver que le véhicule n'est pas plus polluant avec le système que sans le système. Bon, en gros, l'inquiétude qu'ont les autorités, c'est de dire est-ce que la régénération du filtre à particules pourra se faire de correctement lorsqu'on roule à l'éthanol. Parce que la température de combustion de l'éthanol est plus basse que celle de l'essence. Sur un moteur essence, par rapport à un moteur diesel, on a pratiquement une régénération en permanence. Pourquoi ? Sur le diesel, allez hop, petit cours de technique, ça va aller vite. Sur un diesel, on stocke les particules. Quand le filtre se bouche, on injecte du carburant à l'échappement pour brûler les particules dans le filtre. Voilà, pour avoir une température de combustion suffisante. Sur un véhicule essence, on a une température d'échappement pour brûler en permanence ces particules qui sont retenues. Donc on n'a pas besoin de phase de régénération plus marquée. Il faut qu'ils arrivent à prouver qu'avec l'éthanol, donc qui a une température de combustion plus basse, on permettra quand même cette régénération permanente du filtre à particules. Là où ça coince dans leur raisonnement, c'est que à l'éthanol, on a 80% de particules en moins. Donc, on s'en fout que la régénération se fasse moins bien, puisque quand on roule à l'éthanol, il n'y a pas de particules. Donc, il faut arriver à prouver ça. Donc, il y aura des tests d'homologation qui vont le démontrer. Ça a pris un petit peu de retard, parce que vous avez sans doute remarqué qu'on est dans une crise sanitaire qui, pour l'instant, a un peu tout figé. Mais je pense qu'en 2021, on aura enfin l'autorisation d'avoir des boîtiers sur les modèles à injection directe de dernière génération, donc les modèles essence équipés d'un filtre à particules.
D'accord. Et juste une dernière petite question, c'est concernant justement le modèle 140 TCE là.
Est-ce qu'il prend de l'éthanol comme ça ?
Oui.
On en a déjà parlé plein de fois.
On va reparler de votre conversation secrète avec Renaud. Ouais.
Non, elle n'était pas secrète. J'ai même pris à témoin les autres journalistes qui étaient à table. J'ai reposé la question au moins 4-5 fois. Non, j'ai posé à deux personnes différentes pour être sûr que j'entendais bien ce qu'on m'a dit. Voilà. Et on m'a dit, oui, il prend du 85, ce moteur. Il n'est pas homologué parce que pour l'homologuer, il faudrait que dans les phases de démarrage à froid, il respecte la norme, ce qui ne doit pas être le cas. Donc, il ne peut pas être homologué tel quel. Par contre, il prend du 85. Maintenant, c'est un risque que vous prenez, Jérôme, parce qu'elle est sous garantie, votre voiture, vous venez de l'acheter, vous l'avez achetée en 2019, donc elle est encore garantie jusqu'à l'année prochaine, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà. Bon, si vous mettez de l'éthanol dedans, ça se verra. Le calculateur va garder une trace. Et si vous avez une panne quelconque, ils diront, mais vous avez roulé à l'éthanol. Et comme elle n'est pas homologuée vous perdez le bénéfice de la garantie commerciale. Donc, moi, je serai vous jusqu'à la fin de la garantie commerciale, j'essaye pas. Et puis après, deux solutions, soit vous mettez un boîtier, soit effectivement, vous décidez de lui faire boire de l'alcool, et normalement, ça marcherait. Il supporte mieux l'alcool que François, le 1 litre 3 TCE.
Merci Jérôme. Allez, 8h-5, la météo, les infos. Et on repart pour notre deuxième acte dédié à l'auto avec vos questions en priorité au 32-16. Céline Kastner sera là, et encore plein d'autres surprises. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.